France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Début ce matin d'une série qui pose cette question: le bonheur est-il dans le désir? Et pour ce premier épisode, nous nous rendons du côté de Platon et d'Aristote. Bonheur, désir, plaisir, cela fait bien longtemps que les philosophes s'interrogent sur tout cela. Déjà en Grèce ancienne, Platon, qui a écrit dans la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, et Aristote, dans la deuxième moitié de ce même siècle. Nous allons écouter des spécialistes de ces auteurs, bien sûr, mais il semble, à première vue, que pour ces philosophes antiques, le bonheur ne soit pas vraiment dans le désir. La quête à laquelle correspond le désir, l'infini qui semble l'habiter, sa tension, son énergie, tout cela séduit surtout les modernes, ouverts à l'éventualité que le bonheur visé soit, après tout, dans le désir lui-même. Platon et Aristote voyaient, semble-t-il, les choses autrement. Pour eux, les désirs sont variés et certains pourraient être supérieurs à d'autres. Et puis, c'est l'organisation globale des désirs qu'il faut considérer. Est-il indispensable d'en modérer certains, voire de les modérer tous? Est-ce par cette sagesse des désirs seulement qu'advient l'eudémonia, la vie bonne? Plaisir, si j'ose dire, de revenir vers la Grèce ancienne et avec deux lectrices et enseignantes formidables. Bonjour Anne Mercker.
Bonjour.
Welcome. Alors, je vais me faire gronder parce qu'il y a des auditeurs qui n'aiment pas quand j'utilise de l'anglais. Pardon, bienvenue. Bienvenue, vous venez régulièrement nous parler de philosophie grecque. Vous êtes professeur à l'université de Strasbourg, spécialiste en effet de philosophie grecque ancienne. Et bonjour Laetitia Mouze.
Bonjour Géraldine.
Vous aussi, vous êtes déjà venue chez nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et aujourd'hui, à distance, vous êtes avec nous depuis ici, Occitanie. Merci aux équipes de Toulouse. Vous travaillez aussi sur certains penseurs modernes, parfois Laetitia Mouze. Mais vous avez beaucoup étudié l'œuvre de Platon. Je compte sur vous deux, dont les travaux sont précisés sur notre site, pour clarifier nos idées à propos de désir et bonheur chez Platon et Aristote.
C'est pas moi, mon père, c'est elle qui a commencé, c'est la Claudine!
C'est toujours elle qui commence, petit imbécile! Quel âge as-tu?
14!
Oh les chiennes, elle s'attaque aux enfants!
Quel que soit l'âge, un pied dans la tombe, elle ne pense qu'à ça!
Je me suis fait avoir exactement comme toi, mon petit gars, à ton âge. Mes parents avaient une petite bonne, 19 ans, elle arrivait de Bretagne, toute neuve.
Épargnez-nous la suite, on connaît l'engrenage! Elle vous apportait le petit déjeuner au lit le matin.
Et parfaitement. Le piège classique. Les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous les dredons. Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir. Les mains s'égarent. C'est chaud, c'est doux. Ça sent le café, le savon de Marseille.
On se confesse et on recommence le lendemain.
Voilà. Et à 40 ans, on est une épave. C'est ça que tu veux?
Non, monsieur.
J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est, Proust?
Oui, monsieur.
J'ai jamais dépassé un amour de Swann. Parce que figure-toi qu'à chaque fois que j'essayais d'ouvrir le tome 4, on aurait dit que ça déclenchait un disque.
Paul, mon petit Paul, on est éteint.
Tous les soirs, pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal.
Moi, je veux rester célibataire, monsieur.
Le célibat ne croit surtout pas que ça soit dans la poche.
Chaque fois qu'une femme me voit, faut qu'elle s'emballe. Tiens, voilà Albert, ça y est. Elle a l'œil qui s'humecte.
Moi, c'est bien simple. Depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier.
L'enfer, on sait ce que c'est, on peut en parler, on en revient.
Vous ne vous attendiez peut-être pas à celle-là, c'est un extrait du film Calmos de Bertrand Blier, 1967, avec les inoubliables Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. Anne Merkel, ces femmes, ah là là, elles épuisent les hommes avec leur désir à elles, avec celui qu'elles suscitent, elles empêchent de lire, il est temps que ça s'arrête, ayons une vieillesse. Alors il y a une expression un peu bliée que les Français utilisent, parfois, pas très élégante, la paix du slip. Vous connaissez cette expression?
Non, je ne la connaissais pas. Mais...
il est temps, est-ce que Platon pensait cela aussi? Il est temps d'arrêter avec ce désir qui est épuisant et de passer aux choses sérieuses?
Je crois que d'abord, c'est un point de vue très masculin, si vous me permettez de réagir à cet extrait qui est tout à fait truculent et savoureux, mais c'est vraiment très masculin. C'est-à-dire la femme est complètement identifiée à la pulsion érotique, au fait qu'elle suscite le désir. Ça, c'est la première remarque. Et c'est tout à fait appréciable de voir que les hommes s'en plaignent en réalité. Peut-être qu'ils devraient se plaindre de leur propre pulsion à eux plutôt que de ce qui est censé le déclencher. Et cette idée de... Et c'est assez frappant de voir cette idée de d'épuisement oui. par cette activité du désir érotique. Et on trouve effectivement chez Platon cette idée-là. Bon, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il pense exactement, comme c'est des dialogues, il donne la parole à plusieurs points de vue. Hein, c'est l'intérêt de l'écriture platonicienne. Mais il y a effectivement l'idée d'une tyrannie du désir, oui, en fait.
Ça, hein,
voilà, complètement la tyrannie du désir qui peut être désirée par celui qui est tyrannisé, mais qui peut être à l'inverse, ressenti effectivement comme une tyrannie, ce qui est le cas dans cet extrait.
Alors
avec,
oui.
L'enfer, on connaît. Voilà, l'enfer, nous, on connaît.
On va développer, évidemment, c'était une entrée en matière un peu sous la forme d'une boutade. Qu'en pensez-vous, Laetitia Mouze, Bertrand Blier, Platon on n'a pas rêvé ce thème de vivement que le désir s'arrête et qu'on puisse être plus heureux existe chez Platon.
Bien sûr, il existe chez Platon dans un texte du début de la République, mais il n'y a pas que ce point de vue sur le désir érotique, puisque on trouve aussi une analyse dans le Banquet et dans le Phèdre positive de l'éros en tant qu'il est susceptible de nous conduire vers d'autres cieux. C'est le cas de le dire en réalité.
Alors,
chez Platon.
Ce que vous nous dites toutes les deux, c'est que c'est complexe chez Platon, il y a plusieurs lignes, et il y en a une, en effet, qui apparaît dès le premier livre de la République, ouvrage qui est considéré comme un ouvrage du milieu de vie de Platon, où le vieux Céphale, vous me direz d'ailleurs qui c'est, est présenté comme plus heureux parce que le désir permanent n'est plus là. On écoute Platon.
Souvent, nous nous réunissons entre gens âgés à peu près du même âge, conservant sa valeur au vieux dicton. Dans ces réunions, la plupart d'entre nous se lamentent. Ils regrettent les plaisirs de leur jeunesse et ils se remémorent les délices de l'amour, la bonne chère et autres plaisirs du même ordre. Et ils récriminent comme s'ils étaient privés de biens d'une grande importance. Comme ils vivaient bien alors, et maintenant ils ne vivent même plus. Certains d'entre eux se plaignent de la manière dont leurs proches traitent la vieillesse, comme du rebut. Et sur cette lancée, ils se lamentent en rendant la vieillesse responsable de tous leurs maux. Mais à mon avis, Socrate, ils ne blâment pas le vrai responsable. Car si la vieillesse était la vraie cause, j'aurais moi aussi subi l'épreuve de tous ces maux du fait de mon grand âge. Et ce serait aussi le cas de tous ceux qui sont parvenus à cet âge de la vie. Un jour, j'étais aux côtés de Sophocle, et on lui posa la question « Comment te sens-tu, Sophocle, par rapport au plaisir de l'amour? Es-tu encore capable d'avoir une relation avec une femme ?» Et celui-ci de répondre « Tais-toi, bonhomme, je suis enchanté de m'en être sorti, comme si je m'étais échappé d'un maître enragé et sauvage. » Il m'impressionna alors par cette belle réponse, et encore aujourd'hui, elle ne me fait pas moins impression. À tous égards, en effet, pour ce genre de choses, il se produit dans la vieillesse une grande paix et une libération. Quand les désirs perdent leur intensité et s'apaisent, alors se réalise absolument la parole de Sophocle. On se trouve libéré de tyrans nombreux et maniaques.
Admercaire, c'était Platon qu'on entendait lu par Nicolas Berger. Qui parle dans qui dit cela dans La République?
Alors c'est un homme très âgé qui s'appelle Céphale et qui est ce qu'on appelle un habitant domicilié, un métèque, mais le terme métèque a pris un sens péjoratif donc on ne l'utilise plus, un habitant domicilié et qui est par ailleurs très très riche et s'engage une question avec Socrate. C'est le tout début de la République, c'est la mise en scène qu'a choisi Platon de faire se dérouler le dialogue de la République chez cet homme-là. Mmh. Donc déjà c'est tout un symbole en fait que ce grand dialogue se passe chez lui et que ce soit finalement sous les auspices à la fois de la vieillesse, de la richesse et de Eros. Et comme il est vieux, Socrate lui demande, mais alors, qu'en est-il de la vieillesse, puisque nous y allons tous? C'est l'endroit où tu as cheminé avant nous, et donc, comment se passe ce chemin? Est-ce qu'il se passe bien, et tu es bientôt au terme? Est-ce que la richesse t'apporte quelque chose? Et Céphale répond sur la vieillesse, et c'est très intéressant d'avoir les deux points de vue, en fait. On a celui de l'extrait que vous avez passé, c'est-à-dire le Eros tyrannisant, et l'individu tyrannisé. Mais on a aussi l'inverse qui s'exprime, c'est ça le dialogue platonicien, il permet d'avoir tous les points de vue. Et l'inverse est très intéressant aussi parce que finalement certaines personnes, ici c'est des hommes, toujours le point de vue très masculin, certains hommes ressentent l'impossibilité du désir érotique comme une sorte de mort. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il s'esquisse ici chez Platon, sous forme amusante, l'idée que peut-être le désir est au cœur même de la vie, même si Platon ne va pas épouser directement cette thèse, mais il y a une intrication entre le désir et la vie, et donc par-delà, entre la vie quand elle est réussie, ce qui s'appelle le bonheur, tout simplement.
Qu'en pensez-vous, Laetitia Mouze? Est-ce que Platon, en donnant ainsi la parole à Céphale, ce vieil homme riche, heureux que les désirs tyranniques l'aient quitté, donne raison uniment à Céphale, à cet homme, à ce point de vue, Laetitia Mouze?
C'est une question tout à fait complexe, c'est-à-dire extrêmement pertinente, Géraldine. C'est celui qui permet donc de lancer la discussion de la République qui porte sur le rapport entre justice et bonheur. Et plus particulièrement, avec Céphale, est lancée la question de la définition de la justice elle-même. Céphale donne de la justice une définition que Socrate remet en cause en l'identifiant à certains actes, en particulier rembourser ses dettes auprès de ses débiteurs et faire des sacrifices aux dieux, ce que la richesse, dit-il, lui a permis. Donc d'un certain point de vue, c'est mon premier point, Céphale, donc, dans la mesure où sa définition de la justice est remise en cause, peut être considérée comme une figure à laquelle Platon ne donne pas raison. Mais c'est pas la seule chose, parce que d'un autre côté, dans les lois, la vieillesse est quand même, chez Platon, considérée comme, pour le dire un peu vite, le moment de la vie où quelque chose comme une certaine sagesse, c'est très raccourci ce que je dis, mais disons, on peut le dire comme ça, peut advenir, en tout cas. Donc c'est ambivalent.
C'est ambivalent. Mais peut-être que ce qui travaille toujours dans le dialogue, c'est une question que Platon s'est posée déjà très jeune. Est-ce que le désir, ce n'est pas l'énergie, la vie, la force? Alors, peut-être pas le bonheur, mais quelque chose de très, très séduisant. Et évidemment, on pense là à Calliclès, qui est un personnage d'un dialogue de jeunesse de Platon, en tout cas antérieur à la République, qui s'appelle le Gorgias, où Calliclès exprime, enfin c'est un vrai défi pour Socrate, c'est un dialogue, vous m'en parlerez, dur, peut-être même débouchant sur une aporie, peut-être que Socrate n'arrive pas bien à répondre à Calliclès. Or Calliclès, on va écouter un morceau de ce dialogue avec les deux interlocuteurs, défend vraiment le désir. Écoutez.
Que veux-tu dire avec ton « se commander soi-même » ?
Rien de compliqué, tu sais. La même chose que tout le monde. Cela veut dire être raisonnable, se dominer, commander aux plaisirs et passions qui résident en soi-même.
Ah, tu es vraiment charmant. Ce que tu appelles homme raisonnable, ce sont des abrutis.
Qu'est-ce qui te prend ? N'importe qui saurait que je ne parle pas des abrutis.
Mais si, Socrate, c'est d'eux que tu parles absolument. Car comment un homme pourrait-il être heureux s'il est esclave de quelqu'un d'autre ? Si on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions, si grandes soient-elles, ne pas les réprimer. Au contraire, il faut être capable de mettre son courage et son intelligence au service de si grandes passions et de les assouvir avec tout ce qu'elles peuvent désirer. Écoute, Socrate, tu prétends que tu poursuis la vérité. Eh bien, voici la vérité. Si la facilité de la vie, le dérèglement, la liberté de faire ce qu'on veut demeurent dans l'impunité, ils font la vertu et le bonheur. Tout le reste, ce ne sont que des manières, des conventions, faites par les hommes à l'encontre de la nature. Rien que des paroles en l'air qui ne valent rien.
Explique-moi, Calliclès. Tu dis que si l'on veut vivre tel qu'on est, il ne faut pas réprimer ses passions, aussi grandes soient-elles, mais se tenir prêt à les assouvir par tous les moyens. Est-ce bien en cela que la vertu consiste ?
Oui, je l'affirme, c'est cela la vertu.
Il est donc inexact de dire que les hommes qui n'ont besoin de rien sont heureux.
Oui, parce que si c'était le cas, les pierres et même les cadavres seraient tout à fait heureux.
Anna Fulpin de notre équipe prêtait sa voix à Calliclès et c'était à nouveau Nicolas Berger en Socrate. Laetitia Mouze, Calliclès défend le désir au nom d'un idéal, je cite, de vivre tel qu'on est. Cette énergie, il faut la prendre en compte et même la servir, dit Calliclès. Socrate a du mal à lui répondre, non, je me trompe ?
Effectivement, le Gorgias peut être lu comme un dialogue où Socrate est mis en difficulté d'une certaine manière, non pas tant parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que Calliclès n'est pas convaincu par ses réponses. Et juste après ce texte, Socrate oppose à Calliclès ce qu'il appelle deux images, deux petites histoires, qui sont destinées à montrer que la vie de celui qui cherche sans cesse à assouvir ses désirs est une vie en réalité malheureuse, puisque c'est une vie qui consiste remplir sans cesse des tonneaux percés. Donc c'est une action vaine. Mais Calliclès se déclare non persuadé par ces images. Et toute la suite du dialogue consiste dans la tentative par Socrate de ce qu'on appelle réfuter Calliclès, c'est-à-dire de lui faire voir que ses conceptions, ses opinions sont incohérentes. Et que cette incohérence est la manifestation du fait qu'elles sont fausses. Mais c'est effectivement difficile.
Qu'est-ce qu'il y a d'incohérent dans la position de Calliclès, d'après vous, Anne Mercker ? Est-ce que vous enfonceriez le clou sur lequel j'ai commencé à taper, à savoir, Socrate a beaucoup, beaucoup de mal face à Calliclès et à ses arguments ?
Oui, il a beaucoup de mal, je crois, il a beaucoup de mal parce qu'il se joue vraiment une opposition frontale sur un problème fondamental qui est savoir, finalement, qu'est-ce que la condition humaine et qu'est-ce que c'est que vivre. Et l'image finale de l'extrait, quand il dit, mais quand on a besoin de rien, alors c'est qu'on on est un cadavre, on est simplement comme les pierres, comme des cadavres. Et la position de Calliclès est vraiment très radicale, c'est-à-dire vivre, c'est désirer. Et déjà même exacerber les désirs. Et tout un passage dans le dialogue où il explique il faut d'abord l'homme le plus excellent, vertueux, si on traduit comme ça, le plus excellent, supérieur, c'est celui non seulement qui désire, mais qui est capable d'exacerber ses propres désirs, et ensuite de mettre sa puissance au service de la satisfaction de ses désirs. Donc c'est une représentation que, personnellement, je trouve cohérente à un certain niveau,
oui,
de la condition humaine et de ce que c'est que le déploiement de la vie humaine dans toute son intensité. Et face à cela, Platon met en scène un Socrate qui, lui, a aussi une très très grande cohérence, mais un autre type de cohérence qui est que la condition humaine ne peut pas se penser uniquement au niveau de la satisfaction de ce type de désir dont parle Calliclès, à savoir des désirs qui sont liés, dans le fond, à la corporéité, à la sensualité, et des désirs qui sont aussi ceux dans le milieu humain. Tout ce qui est derrière, je termine avec cette remarque, tout ce qui est derrière Calliclès, même si le mot n'est pas là, c'est le problème de la pléonexie. C'est avoir plus, toujours déployer davantage sa puissance. Et c'est un idéal, pour autant qu'on puisse lui donner ce terme, un idéal de dépassement permanent et de domination sur les autres, au prix d'une non-domination de soi-même. Et dans le fond, Socrate inverse les choses. Il faut se dominer soi-même et ne pas chercher à avoir plus, toujours plus, et dominer les autres. Donc il y a une antithèse totale. Et comme le disait Laetitia, il y a un échec de la persuasion, parce que personnellement, je trouve qu'il y a une forme de cohérence chez Calliclès.
Vous le dites toutes
voilà,
les deux.
Voilà, je n'adhère pas, mais il y a une forme de cohérence.
Oui. Certains disent que c'est Nietzsche avant Nietzsche, qui a été mis en scène par Platon au 4e siècle avant Jésus-Christ.
On peut avoir une lecture nietzschéenne de ce passage. Oui, on peut. Moi, j'ai tendance à l'avoir comme une sorte de manifestation de volonté de puissance qui s'assume elle-même.
Laetitia Mouze, est-ce que vous pensez que c'est dans la République, justement, que, que Platon va répondre à Calliclès, ce personnage qu'il a lui-même mis en scène face à Socrate et mettant Socrate en difficulté dans le Gorgias.
Alors, on trouve effectivement des éléments de réponse à Calliclès dans la République. D'une part, en République 9, lorsque...
Donc, Livre 9, je dis pour les non-spécialistes. La République, pardon. Livre 9, parce que la République, c'est ambigu. En plus, c'est un mot latin, enfin bon, bref, c'est compliqué. Donc, dans ce livre de Platon, le Livre 9, je vous écoute, Laetitia.
Oui, excusez-moi. Dans le livre 9 de la République, donc, il y a une réflexion sur le plaisir et sur le fait que la vie de l'homme juste, dont toute la République a pour but de montrer qu'elle est la vie heureuse par excellence, enfin la seule vie heureuse. Dans le livre 9, donc, il s'agit de montrer que non seulement l'homme juste est heureux, mais que de surcroît, il a une vie plaisante, agréable.
Oui.
Et pour ce faire, Socrate analyse le plaisir et montre que le plaisir et la souffrance sont des états opposés, mais qu'ils comportent un état intermédiaire, à savoir l'état où il n'y a ni souffrance ni plaisir, qui est un état de repos et qui n'est ni le plaisir ni la souffrance. Or, cet état de repos, c'est l'état que l'on atteint lorsque la douleur du manque est comblée. Lorsqu'on a faim, on éprouve une douleur. Lorsqu'on mange, ce manque est comblé. Et donc, on atteint non pas le plaisir, mais le...
Allô ?
Appelle bonheur, c'est un plaisir qui, dans la République, est, me semble-t-il, identifié à l'état de repos et donc pas véritablement un plaisir, justement.
Alors, oui, on va creuser ce point. Anne Mercaire, vous pensez que la réponse dans La République, effectivement, au livre 9, il y a tout un échange à ce sujet. La réponse, au fond, de Platon, à ce personnage de Calliclès qui adore le désir, qui l'exalte, etc., est-elle de dire la modération de tous les désirs apporte un plaisir, voire un bonheur plus profond, ou bien la réponse de Platon est-elle plutôt de dire ça dépend des désirs et attention aux désirs corporels, les autres, intellectuels notamment, ceux-là, je les apprécie davantage et il y a moins de brides à mettre sur eux.
Oui, il y a les deux, hein, en fait. Hein, les deux hypothèses que vous venez de dénoncer sont assumées les deux par Platon. C'est-à-dire qu'en fait, Platon, je vais reprendre la question du plaisir dont Laetitia Mouze vient de parler. Platon fait une analyse très précise et très pointilleuse du plaisir dans la République, mais aussi déjà dans le Gorgias,
oui,
pour montrer que, en fait, désirer, ça provoque du plaisir quand on atteint l'objet du désir, mais simultanément, il s'y mélange de la souffrance. Parce qu'en fait, quand on désire sur la base de quelque chose qui manque, quelque chose qui nous pousse, qui fait mal d'une certaine manière. Et d'ailleurs, dans Eros, au sens érotique et amoureux, il y a ce mélange dans toute passion, hein. Il y a une sorte de plaisir intense quand on possède l'objet, mais en même temps de souffrance qui peut être très très forte quand on s'en estime privé ou quand on ne l'a pas sous la main, etc. Donc l'analyse platonicienne du plaisir en tant qu'il est lié vraiment à la vie corporelle aboutit à montrer que ces plaisirs sont sans cesse mêlés de souffrance et que donc, certes, le désir, Platon ne le nie pas, que le désir est immanent à la vie humaine et que la vie humaine se déploie elle-même dans le désir, mais que le comble du bonheur ne va pas résider dans ces plaisirs-là.
Et est-ce que je peux quand même vous poser une question à ce sujet ?
Oui.
Parce que donc ces plaisirs-là, ces désirs-là, ils correspondent à une partie de l'âme, si j'ai bien compris. L'épithumia.
Tout à fait.
Il y a trois parties de l'âme, on va les décliner. Cette partie-là, elle est peu valorisée par Platon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'empêche que dans ce livre neuf de la République, il suggère que toutes les parties de l'âme doivent être à un moment satisfaites. On ne peut pas se concentrer sur une seule en négligeant les autres, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Il le dit dans La République, ne serait-ce que parce que vous avez raison de dire qu'il ne valorise pas tous ces épithumia et ces désirs qui sont liés au corps. Mais c'est un fait qu'on meurt si on ne les satisfait pas. Mmh. Voilà, c'est le désir de manger qui peut dégénérer dans la gloutonnerie, etc. Et dans l'insatiabilité, qui peut donner aussi le désir de boire, de s'enivrer, de l'alcool. Le désir sexuel qui, dans le fond, est aussi une question de survie au niveau de l'espèce, pas au niveau de l'individu. Donc c'est un fait, à nouveau, on retombe sur l'idée que pour vivre, il faut désirer, et que désirer, c'est vivre.
Donc d'une certaine façon, voilà. Il laisse une place à quelque chose de l'argument de Calliclès.
Absolument, il laisse une place. Simplement, c'est le rapport que l'on a par rapport à ses propres désirs. Je dirais, et Laetitia pourra éventuellement corriger s'il y a des accords, mais que Platon n'a jamais cherché à éradiquer les plaisirs sensuels. Mmh. Il a essayé de les penser, et de les penser aussi dans leurs dérives. Ce qui fait que l'être humain n'étant pas qu'une corporée dans le monde, mais étant aussi une intelligence, donc ce qu'on peut appeler la partie rationnelle, l'être humain doit avoir un certain rapport à ses désirs. Il ne se laisse pas, il ne doit pas se laisser purement et simplement mener par les désirs de la corporéité. Et donc c'est dans ce rapport qu'il se joue quelque chose que travaille Socrate avec l'idée de modération, de maîtrise, et qui débouche dans le fond aussi sur une forme de puissance. C'est une forme de puissance.
De contrôle en tout cas.
Et de contrôle.
De maîtrise.
De maîtrise et une forme de hiérarchie intérieure, d'architecture intérieure de puissance, où finalement la puissance supérieure, le pouvoir supérieur revient à l'intelligence. Parce que c'est sa dignité, c'est elle qui est capable de voir à l'avance. Il y a tout un calcul des plaisirs. Si je me livre aux désirs sensuels, etc., sans aucune retenue, je le paye après. C'est l'image classique de l'enivrement avec la gueule de bois ensuite. Donc il y a toute une métrétique, un art de la mesure pour les plaisirs corporels. Et dans le fond, c'est l'intellect, c'est l'intelligence qui permet au plaisir et au désir corporel d'advenir à leur propre plénitude plutôt que l'inverse.
Alors l'intelligence, c'est une autre partie de l'âme, le logos. Laetitia Mouze, est-ce que vous pourriez nous préciser quelle est la troisième partie intermédiaire entre le logos et l'épithumia, entre l'intelligence et les désirs plus sensuels ou corporels. Il y a une partie intermédiaire difficile à penser. Merci de nous en parler et de cette manière de reprendre la question platonicienne de l'organisation juste et bonne, heureuse des trois parties de l'âme.
Alors, cette troisième partie, c'est évidemment la croix des commentateurs. En grec, elle s'appelle thumos. Oui. Il est difficile de traduire exactement dans ce contexte. En général, on dit colère ou ardeur. C'est en gros la partie de l'âme qui est le siège de deux sentiments qu'on pourrait dire, nous aujourd'hui, moraux, si l'on veut. L'indignation face à l'injustice, notamment celle que l'on subit soi-même, et la honte devant l'injustice que l'on a commise et dont on est l'auteur. La thumos est une partie de l'âme qui, par nature, selon le Socrate de la République, est l'allié de la raison.
C'est un peu la volonté, la force d'âme, dirait les auteurs peut-être du XVIIe, le cœur, au sens aussi de la force intérieure. Vous diriez cela, Laetitia Mouze?
Alors c'est compliqué. Le thumos est hérité d'Homère chez Platon.
Oui.
Et effectivement, c'est dans le contexte archaïque, c'est l'âme, c'est ce qui meut en fait. Est-ce que c'est chez Platon exactement cela? Oui, sans doute en partie, mais j'avoue que aller jusqu'à dire que c'est la volonté, je ne suis pas sûre.
Entendu,
pour ma part.
Entendu. On ne va pas jusque là. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une force intérieure qui aide précisément la partie supérieure de l'âme, l'intellect, le logos, qui l'aide à imposer son joug, parce que je crois quand même que c'est de ça qu'il s'agit chez Platon, vous me démentirez peut-être, mais son joug sur les appétits sensuels, pour reprendre une traduction souvent donnée à la troisième partie de l'âme, l'épithumia.
Oui, tout à fait. Le thumos et la raison s'allient. Alors, pour imposer leur joug, l'expression n'est pas trop forte, puisque l'épithumia a une puissance de son côté qu'il faut effectivement essayer de contrôler, enfin de plus exactement de limiter, puisque la raison dans le texte de la République qui met en place ce qu'on appelle la tripartition de l'âme, c'est-à-dire qui montre qu'il y a dans l'âme humaine l'épithumia, la partie désirante,
oui,
le thumos, donc le cœur et puis la partie calculatrice. Ce texte donc définit la partie calculatrice comme une partie qui retient. Non pas une partie qui fait agir, mais une partie qui retient d'agir, c'est-à-dire qui limite. Tout le problème, c'est de limiter la pulsion de l'épithumia. Cela se fait lorsque la raison, aidée par le thumos, impose sa loi à l'épithumia. Et c'est ça qu'on appelle effectivement l'organisation juste et bonne de l'âme, puisque lorsque chaque partie de l'âme accomplit ce qui est sa fonction propre par nature, la raison ayant par nature, selon Platon, en tant que faculté délibératrice, à diriger l'âme, tandis que les deux autres ont à lui obéir. Lorsque chaque partie de l'âme accomplit sa fonction propre, alors l'âme est juste.
Ça rend heureux, ça ? Réponse à Caliclès, quelques années plus tard dans La République, Anne Mercaire. Ça rend sans doute juste, ça rend bon au sens de la morale, d'être bien équilibré, de tenir, de garder la bride sur les désirs corporels. Mais est-ce que ça rend heureux ?
Oui, la réponse de Platon, c'est oui. Et toute La République, en tout cas du livre 2 au livre 9, consiste à démontrer cette thèse. C'est que justement, la justice est cette architecture psychique où chaque partie est à sa place et chaque partie effectue bien sa fonction. L'intelligence gouverne et permet aux deux autres d'ailleurs d'advenir à leur propre fonction, leur propre être de manière correcte. Et ça installe la paix intérieurement et c'est ça qui permet d'être heureux. Non seulement la paix, mais aussi une forme d'amitié avec soi-même et non pas de déchirement. Et si vous me permettez de revenir sur le terme de joug que vous avez utilisé, oui, qui est un très bon terme, puisque Platon représente les appétits sensuels parfois sous une forme d'une bête, hein, dans La République, il le fait à la fin de La République, mais il analyse au début du livre 9 le caractère bestial de certains de ses désirs, c'est-à-dire ils sont tellement multiples les désirs liés à la corporéité, et il y en a qui sont vraiment d'ordre bestial. Et Platon évoque dans un passage qui est souvent cité comme un peu une anticipation de la psychanalyse, il évoque ces désirs incestueux, d'anthropophagie, qui ne connaissent aucune limite et qui s'éveillent pendant les rêves. Et donc, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux dans ce débordement bestial de l'inceste, de l'anthropophagie, de aucune limite. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Et être heureux, c'est précisément, ça passe par ce joug que vous avez indiqué.
Oh, mademoiselle, allons, voyons, soyez raisonnable.
Ah, suffit !
Mais résumons la situation, essayons d'y voir clair. Que vous voulez essentiellement, arrêtez-moi si je me trompe, c'est qu'on vous baise. Voilà, vous êtes en manque. Terriblement sevré, l'homme, finalement, on a beau cracher dessus, c'est utile. Mais malheureusement, mon copain et moi, en ce moment, on n'a pas tellement la tête au cul. Alors, ce qu'on voudrait, c'est prendre encore un peu de repos peinard, se refaire une petite santé, pour essayer de retrouver nos 20 ans.
Vous feriez bien de faire gaffe, hein. Elles en veulent, mes mômes. J'ai un mal fou à les retenir.
Écoutez, madame, pour l'instant, nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. Hein, c'est le Beaujolais. Voilà, la blanquette de veau, le roquefort, la frangipane, le tabac brun et le calme. Vous connaissez ce mot, calmos. Calmos!
Nous n'avons pas résisté à vous remettre un extrait de Calmos, le film de Bertrand Blier du 1976 avec Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. Et il faut croire quand même que Laetitia Mouze, il y a du commun avec, ça peut vous paraître un peu scandaleux de dire cela, mais avec la position de Platon dans La République, qui est de nous dire Calmos, les désirs corporels. Alors c'est pas sûr qu'ils nous disent vive le Beaujolais et la blanquette de veau. Néanmoins, c'est une transition toute trouvée pour parler du banquet de Platon, autre dialogue, où il n'est pas con. Socrate tient très bien l'alcool et aime beaucoup cela. Ce n'est pas le pire des désirs corporels, l'envie de s'enivrer un peu. Le pire, c'est quoi ? C'est sexuel, c'est l'appât du gain. Quel est le pire des désirs corporels pour ou sensuels pour Platon, Laetitia Mouze ?
Je ne sais pas si il établit réellement une hiérarchie entre ses plaisirs. Alors, ceci dit, on avait commencé en évoquant la tyrannie d'Eros. C'est peut-être le seul, si je me souviens bien, qui, dans les dialogues, est effectivement désigné comme un tyran, et ce, à plusieurs reprises. Donc, en ce sens-là, on pourrait considérer que le désir érotique pour Platon, s'il faut établir une hiérarchie entre les désirs sensuels et désirs du corps, on pourrait considérer que c'est peut-être le pire. Mais ce qui est complexe avec Eros, c'est que c'est aussi dans et par Eros que vient le salut pour l'être humain.
Le salut, on peut parler comme ça pour les Grecs ? Le salut ?
Pardonnez-moi ?
Le salut, on peut dire ça pour les Grecs. Je ne sais pas, je vous pose la question, je ne savais pas qu'on pouvait employer ce terme. Vous voulez dire l'ouverture vers la bonne vie, plutôt ou, ben le salut, ça sonne un peu monothéisme, je trouve. Mais bon, l'ouverture vers la bonne vie ? Quelle est la voie, ou la quête, et le chemin ?
Alors, d'une part, il me semble que le terme de salut n'est pas déplacé, mais c'est vrai que vous avez parfaitement raison, il a pour nous des connotations qui ne sont évidemment pas celles qu'il faut prêter à Platon. Mais chez Platon, il y a toute une réflexion sur le salut de l'âme, la sotéria, et le salut de la cité, ça oui. Et en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste dans le fait, pour l'âme, en mettant sa partie rationnelle, raisonnante, au pouvoir en elle-même, eh bien, de se tourner vers ce dont elle provient, vers son origine, c'est-à-dire l'intelligible qu'elle a fréquenté, qu'elle a parcouru avant son incarnation. Et c'est ce qui est évoqué dans le Phèdre, en particulier, de Platon. Puisque l'idée, c'est que l'âme humaine a eu une existence en dehors du corps. Et tout le problème pour elle, c'est de retrouver cette existence en dehors du corps au moment où elle fréquentait les idées, les formes divines avant de tomber, en fait, dans un corps mortel. Donc c'est ça le salut que peut apporter Eros.
Oui, c'est très clair. Merci beaucoup pour cette explication. Alors peut-être l'un des dialogues, vous venez de le dire, où Eros, dans la variété qui est impliquée, est le plus valorisé, c'est le banquet, où là on a l'impression que même les désirs sexuels, voire peut-être dans leur bestialité que vous évoquiez, Anne Mercaire, peuvent conduire vers des désirs plus élevés, incontestablement plus valorisés par Platon, mais du coup, quand même, l'éros est global. Écoutez cet extrait du banquet de Platon.
Voilà quelle est la droite voie qu'il faut suivre dans le domaine des choses de l'amour, ou sur laquelle il faut se laisser conduire par un autre. C'est en prenant son point de départ dans les beautés d'ici-bas, pour aller vers cette beauté-là, de s'élever toujours, comme au moyen d'échelons, en passant d'un seul beau corps à deux, de deux beaux corps à tous les beaux corps, et des beaux corps aux belles occupations, et des occupations vers les belles connaissances qui sont certaines, puis des belles connaissances qui sont certaines vers cette connaissance qui constitue le terme, celle qui n'est autre que la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la beauté en soi. C'est à ce point de la vie, mon cher Socrate, plus qu'à n'importe quel autre, que se situe le moment où pour l'être humain la vie vaut d'être vécue, parce qu'il contemple la beauté en elle-même. Si un jour tu parviens à cette contemplation, tu reconnaîtras que cette beauté est sans rapport avec l'or, les atours, les beaux enfants et les beaux adolescents dont la vue te bouleverse à présent.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Alors nous avons bien fait de faire lire par une voix féminine ce texte de Platon, par Anna Fulpin à nouveau. Car qui parle là, dans le banquet, Anne Mercaire ?
Exceptionnellement, c'est une femme. Dans les dialogues de Platon, c'est assez rare. C'est Diotime, qui est une prêtresse, et que Platon représente comme ayant en quelque sorte initié Socrate au mystère intellectuel de l'amour. Et elle fait une sorte d'initiation à un mystère. Hein. Il y a toute une mise en scène, comme si c'était quelque chose, presque une doctrine mystérieuse, j'allais dire mystique, le mot est un peu déplacé, sur Eros. Et en fait, tout le banquet qui s'enracine dans une mise en scène de la bonne chère, hein, le banquet, on a bien mangé, et là on est en train de boire, hein, plus exactement, c'est la partie où on boit, et on va parler d'Eros avec un sens au départ tout à fait érotique, Eros au sens de l'amour sensuel et sexuel, et peu à peu se dévoile dans ce dialogue la portée métaphysique de Eros.
C'est-à-dire
et, ben, une portée métaphysique en tant que par Eros, je reviens à cette question de la perpétuation de l'espèce. L'individu, en quelque sorte, en éprouvant que ce soit n'importe quel animal, hein, les autres animaux aussi bien que l'être humain, l'individu est dépassé par Eros, puisque Eros vise à reproduire et à laisser un autre semblable à soi-même, et donc il nous dépasse. D'ailleurs aussi comme ça qu'il peut être tyrannique, parce que dans le fond, Eros, il travaille en réalité pas tellement pour l'individu qui le ressent, mais plutôt pour quelque chose d'autre qui va au-delà de lui dans l'espèce. Et cette portée métaphysique, elle se révèle complètement. On dit que finalement, dans Eros, il y a un désir pour l'éternité et pour l'immortalité, une manière de s'immortaliser. Et il rebondit là-dessus. Alors certes, comme le disait Laetitia Mouze, il n'y a que Eros dont Platon puisse dire qu'il est tyrannique. Mais je crois que même cette tyrannie a donc quelque chose de métaphysique. Mais Eros, c'est sans doute le plus grand des désirs. Et tout ce qui est grand peut le grand aussi bien dans le mal et dans le bien. Et donc là, le banquet, c'est la version lumineuse de Eros, cette version qui fait que le philosophe fait une expérience particulière d'Eros, qui est l'expérience philosophique elle-même, c'est-à-dire il n'en reste pas, mais il part quand même de là, à cette expérience strictement érotique de Eros, c'est-à-dire de l'amour sexuel, mais on en part quand même. Mm-hmm. Tout ça pour dire que ça n'est pas purement une condamnation, très loin de là.
C'est une régulation.
C'est plutôt une sublimation.
Oui, c'est
voilà.
Merci, part, c'est très...
Voilà,
ça dit exactement la continuité et le dépassement.
Exactement, continuité et dépassement, puisque Platon, dans l'extrait qui vient d'être lu, il fait bien dire à Diotime, une femme, encore une fois, qui manifestement connaît des choses plus profondes sur l'amour que certains hommes, et que donc, il faut partir de l'amour des beaux corps, et que, en fait, dans l'amour des beaux corps et des belles personnes, on commence déjà à dépasser, puisqu'on sent que ce qu'on désire en elle, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus que là, ici et maintenant, quelque chose qui est de l'ordre de la beauté. Et on va s'élever vers les belles occupations, les beaux discours et ainsi de suite, jusqu'à comprendre que, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui parle dans toutes ces choses corporelles, mais qui est quand même encore un peu au-dessus et même très au-dessus, et que Platon va appeler le beau en soi, le beau qui n'est que beau, qui n'est pas un corps, qui n'est pas une occupation, qui n'est pas une poésie, mais qui n'est que beau, que beauté.
Sublimation, dites-vous, Anne Mercker, des désirs corporels, sensuels, ce qui suggère une sorte de transformation peu à peu de ces désirs pour qu'ils deviennent autre chose, plus intellectuel, plus métaphysique, disiez-vous. Dès lors, la question se pose de savoir si chez Platon, le problème est celui de la régulation, si ce n'est pas un autre enjeu là que vous évoquez, la transformation. La régulation, pour le coup, c'est vraiment le grand sujet d'Aristote. Aristote qui a une bonne quarantaine d'années de moins que Platon, dont on dit souvent qu'il répond à Platon, qu'il s'oppose à Platon. Il y a en effet un texte célèbre dans le livre 3 de l'Éthique à Nicomaque, au chapitre 14, où il pose le problème de l'homme déréglé. Vous me direz si c'est la suite de Platon ou si c'est encore autre chose. Écoutons.
L'homme déréglé a l'appétit de toutes les choses agréables ou de celles qui le sont le plus. Et il est conduit par la concupiscence à accorder sa préférence à ces choses-là sur toutes les autres. Et c'est pourquoi il s'afflige non seulement de les manquer, mais encore de les désirer. Des personnes péchant par défaut en ce qui regarde les plaisirs, et s'en délectant moins qu'il ne convient, se rencontrent rarement, car une pareille insensibilité n'a rien d'humain. S'il existe un être à ne trouver rien d'agréable, et à n'établir aucune différence entre une chose et une autre, cet être-là sera très loin de l'humaine nature. Quant à l'homme modéré, il se tient dans un juste milieu à cet égard. Car il ne prend pas plaisir aux choses qui séduisent le plus l'homme déréglé, ni généralement à toutes les choses qu'on ne doit pas rechercher, ni à rien de ce genre d'une manière excessive, pas plus qu'il ne ressent de peine ou de plaisir à leur absence, ni plus qu'on ne doit, ni au moment où il ne faut pas, ni en général rien de tel. Par contre, toutes les choses qui, étant agréables, favorisent la santé ou le bon état du corps, ces choses-là, il y aspirera d'une façon modérée et convenable, ainsi que tous les autres plaisirs qui ne sont pas un obstacle aux fins que nous venons de dire, ou contraire à ce qui est noble, ou enfin au-dessus de ses moyens. L'homme qui dépasse ses limites aime les plaisirs de ce genre plus qu'il ne le mérite. Mais l'homme modéré n'est rien de tel. Il se comporte envers les plaisirs comme la droite règle le demande.
La droite règle qui exige donc la modération de tous les désirs, sans en effacer aucun. Il faut aussi avoir des désirs sensuels et les satisfaire, mais tout cela dans la modération, dit Aristote. Est-ce que vous pensez, Laetitia Mouze, que là Aristote synthétise au fond la position platonicienne, ou bien non ? Dans le banquet de Platon, il y a autre chose aussi que simplement la question de la bonne règle et de la modération des désirs. Sont-ils semblables sur ce sujet ou différents malgré tout?
C'est une question complexe à nouveau. Ils sont semblables à mon sens dans la mesure où, contrairement à souvent ce qu'on pense, chez Platon aussi, il y a une place pour le plaisir à divers égards dans la vertu et il ne s'agit pas de le supprimer. Donc en ce sens-là, il me semble que c'est pareil. En revanche, peut-être l'analyse d'Eros que fait Platon peut être le lieu d'une différence entre les deux philosophes, puisque, en l'occurrence, il ne s'agit pas, à mon sens, de réguler quoi que ce soit. Il ne s'agit pas non plus exactement de transformation, mais plus exactement, à propos d'Eros, il me semble d'en comprendre la vérité.
Ah.
Voilà. Celui qui aime en philosophe, c'est pas qu'il aime de façon différente au sens où il aurait transformé Eros, c'est qu'il aurait compris en fait ce qui est l'objet véritable de son désir. Et donc là, si c'est le cas, il n'y a donc pas de transformation à proprement parler, et en tout cas pas de régulation. Donc oui, de ce point de vue-là, on peut-être considérer que chez Platon, chez Aristote, c'est différent.
Qu'en pensez-vous, Anne Mercier?
Je pense que dans le banquet, il y a une dimension que Aristote n'assume pas dans ses textes, c'est-à-dire vraiment ce cheminement initiatique qui part vraiment d'un héros sensuel pour aller jusqu'à un héros purement intellectuel. Ce qui n'empêche pas que chez Aristote, on trouve tout à fait la première phrase de la métaphysique, c'est « tous les êtres humains désirent par nature savoir ». Donc, de toute façon, le savoir lui-même fait l'objet d'un désir. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait platonicien. Mais vraiment, cette mise en scène, là, dans la bouche de Diotime, d'une initiation par degrés, où on s'élève par degrés jusqu'à un objet du désir qu'on ne soupçonnait pas au départ et qui devient complètement immatériel, incorporel, ça, on l'a pas tel quel chez Aristote. Et inversement, l'idée que il faut réguler les désirs qui sont liés à la corporéité, les désirs sensuels, on l'a évidemment chez Platon, parce que même philosopher, de toute façon, ça se fait ici et maintenant. Hein. Oui. Le philosophe, c'est quelqu'un qui vit avec un corps, et encore une fois, vivre avec un corps, ça exige qu'on satisfasse un certain nombre de désirs, parce que sinon, tout simplement, on meurt. Donc, il y a cette nécessaire régulation. La régulation, le désir est nécessaire à la vie, et la régulation des désirs est elle aussi nécessaire à la vie.
Mais du coup, je veux dire, c'est très étonnant. Platon part dans sa vie de position très inquiète au sujet du désir. On l'a vu, il valorise dans la République le vieil homme qui n'a plus beaucoup de désir au sens large du mot, et notamment corporel, dit-il. Et il arrive au banquet, ce dialogue, qui revalorise le désir d'une manière assez inédite et même au-delà de ce que d'autres Grecs, a priori plus décontractés sur la question comme Aristote, il n'ira pas là-bas, Aristote. Il n'ira pas jusqu'au banquet de Platon. C'est très troublant. Il fait un chemin sur la question du désir, Platon.
C'est vrai. Enfin, je pense que ça coexiste, hein, mais c'est vrai que le banquet est assez exceptionnel, quoique le Phèdre, en fait, a aussi cette même idée présentée autrement. Mais vraiment... dans le fond, si on prenait maintenant les dialogues à partir du personnage de Socrate, on verrait qu'il y a la même ambivalence et la même ambiguïté sur le personnage lui-même, où vous pouvez l'avoir dans le Phédon, promouvant la vie désincarnée, philosopher, c'est apprendre à mourir, donc c'est se séparer du corps, comme s'il y avait une négation du corps. C'est en général ce qu'on retient de Platon, le Phédon, la négation du corps, etc. On doit quitter le corps. Mais le personnage de Socrate, dans la plupart des dialogues de Platon, c'est un grand séducteur, c'est quelqu'un qui regarde les beaux garçons. Enfin, vous ouvrez le Charmide, le début, Platon écrit que Socrate a aperçu l'intérieur du manteau, sous le manteau de Charmide, et tout d'un coup, il a été enflammé de désir. Enfin, il y a toute cette ambiguïté.
Oui, très ambiguë.
Oui, autour du personnage de Socrate, et je crois que ça coexiste chez Platon, et à mon avis, ça ne fait pas d'incohérence, ça fait plutôt du charme, je dirais.
Je vous laisse le dernier mot, Laetitia Mousse, sur l'ambiguïté de Socrate, peut-être mis en scène par Platon. Qu'en dites-vous ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Oui, Socrate est extrêmement ambigu. Et je crois que ça doit nous apprendre à lire les dialogues avec un peu d'acuité. Parce que est-ce que vraiment il y a une inquiétude autour du désir ? C'est peut-être aller un peu loin que de le dire si on regarde le début de la République où effectivement le bonheur c'est la vertu pour la faire courte. n'empêche que tout commence donc avec Céphale qui se réjouit de voir arriver Socrate, lui demande de venir plus souvent, donc désire sa visite. Pourquoi il la désire ? Parce qu'il est vieux, que les plaisirs du corps s'émoussent chez lui et que du coup s'accroissent les désirs et plaisirs liés aux paroles, au logos, dit-il. Et Socrate, de son côté, se réjouit de dialoguer avec lui. Donc, le premier mot de la République, c'est sur le désir et le plaisir. C'est ça le centre de la vie humaine. Et il s'agit moins d'inquiétude à ce sujet qu'à mon avis de complexité et d'ambivalence, ce qui est incarné effectivement dans l'ambiguïté de Socrate.
Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire.
Libéré du désir, freed from desire, mais ce n'est pas la version d'origine de Gala, c'est un remix, comme on dit, de Nat Tate ou Boca 45 en 2023. Merci beaucoup Anne Mercker et Laetitia Mouze pour toutes vos analyses sur Platon et Aristote ce matin. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse aux disciplines. Voici le pourquoi du comment.
Comment les disciplines découpent-elles le monde ? On ne sait pas très bien ce que signifie le terme de discipline au singulier et il va bien falloir tenter de le définir, mais tout le monde sait qu'il y a un partage du savoir et un partage du monde selon des disciplines. Ainsi, il semble que l'éducation, pour des raisons à la fois institutionnelles et peut-être aussi fondamentales, se découpe en savoirs distincts qu'on va appeler scolairement des disciplines. Mais ce découpage des disciplines n'est pas neutre. Il implique un partage du monde et un partage des objets du monde selon des angles différents. Vous allez apprendre à nommer un objet, à le mesurer avec des mathématiques, à calculer d'un côté, à parler de l'autre. Et peut-être aussi, socialement, y a-t-il une hiérarchie des disciplines et une auto-évaluation aussi des élèves selon des normes sociales qui vont s'appliquer à ces disciplines. Que veut dire être bon en mathématiques? Être mauvais en anglais, être ceci ou cela dans telle ou telle discipline. La discipline, c'est donc le découpage de ce qui s'apprend. C'est le terme discere en latin qui signifie apprendre, enseigner. Et dans les deux versants du terme apprendre, c'est ce qui s'enseigne de manière distincte et comme un savoir constitué. La discipline, donc, c'est aussi fondée sur un partage du monde en fonction de la science elle-même. Les disciplines arrivent à l'école après avoir été découpés ailleurs, découpés par les savants, découpés dans le savoir humain, comme des techniques fondamentales, d'abord lire, écrire, compter, mais aussi comme des savoirs objectifs du monde. Ainsi se sont découpés peu à peu les mathématiques, la physique, la chimie, par exemple, la biologie ou bien dans les sciences sociales, l'ethnologie, l'anthropologie, un certain nombre de disciplines et en médecine aussi, bien sûr, il y a des spécialités disciplinaires. Peut-être qu'un savoir humain global s'est peu à peu divisé en disciplines. Auguste Comte, dans son plan encyclopédique positiviste du savoir humain, disait en effet que tout est sorti d'un savoir global qu'on appelait initialement la philosophie. Et la philosophie s'est divisée ensuite dans tous les savoirs objectifs précis du monde. Quelle est alors la philosophie selon Auguste Comte ? Eh bien, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé de manière objective et précise. Il l'a défini comme la spécialité des généralités. Le philosophe, c'était très méchant de sa part, et celui qui reste le spécialiste de tout, c'est-à-dire de rien, et les disciplines auraient alors une légitimité plus grande qu'un savoir prétendument global, précisément par leur découpage d'un objet, d'un savoir. Mais ce découpage est-il si neutre ? Les disciplines ne doivent-elles pas aussi être toujours réinventées, être dépassées ? L'unité du monde ne résiste-t-elle pas toujours à sa diversité cognitive, au découpage des disciplines ? En réalité, bien entendu, l'apprentissage des disciplines permet la spécialisation, la maîtrise de telle ou telle technique, peut-être même avant tel ou tel savoir, mais peut-être aussi faut-il savoir dépasser ce découpage des disciplines. Peut-être est-ce plus important que jamais aujourd'hui. Cela l'a toujours été, l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, aujourd'hui même la transdisciplinarité, ne sont pas seulement d'étranges mots d'ordre parfois contradictoires des institutions politiques, mais peut-être aussi des besoins vitaux pour les êtres humains.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Merci aux équipes techniques d'ICI Occitanie à Toulouse pour l'accueil à distance de nous, donc de Laetitia Mouze. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim Elkabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.